RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h07 et l'intégral tour c'est jusqu'à 21h sur RMC. Je vous rappelle les principales infos sport du jour. Deux Français sont en quart de finale de Wimbledon. Ça n'était pas arrivé depuis 1991. Richard Gasquet a dominé l'Australien Nick Kyrgios en 4-7. Il affrontera le champion de Roland-Garros Stanislas Wawrinka en quart. Et puis Gilles Simon, il y a quelques minutes, n'a fait qu'une bouchée de Thomas Berdych. Eric Salio, tu es à Wimbledon, ça a été très rapide, une démonstration de Gilles Simon.
Oui, 6-3, 6-3, 6-2. C'est vrai qu'on était un peu interloqué par le nombre élevé de fautes directes de Berdych. Et à la fin du deuxième, on a un petit peu compris parce qu'il avait une sorte de gros emplâtre à la cheville gauche. Donc je pense qu'il a joué avec une petite entorse et il n'avait pas le déplacement aérien qu'on lui connaît. Et donc Gilles Simon, qui en plus est un fin tacticien, a appuyé là où ça fait mal. Donc il s'est imposé vraiment tranquillement. C'est son premier quart de finale ici à Wimbledon, son deuxième en Grand Chelem après l'Open d'Australie 2009. Et il attend de connaître son adversaire. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de suspense puisque sur le central, Roger Federer se balade 6-2, 6-2 face à Roberto Bautista Agut qui tout à l'heure a fait une jolie cabriole. C'est pas celle du Tour de France, mais il s'est fait très mal à la cheville mais il continue quand même à jouer. Sur le court numéro 1, Virginie, un mot sur Novak Djokovic qui n'est pas d'humeur très joyeuse puisqu'il a perdu le premier set face à Kevin Anderson, 7 jeux à 6 en commettant une double faute à 6 points partout. Donc 7-6-2-1 pour le grand Sud-Africain.
Eric Salio, Wimbledon. La Coupe du Monde de rugby est commencée pour le 15 de France. Les 36 joueurs retenus par Philippe Saint-André dans sa présélection sont à Marcoussis depuis ce matin. Première étape de leur préparation avant le stage à Tignes. Et puis c'est la rentrée pour le PSG, premier entraînement de la saison pour une équipe très clairsemée. Aujourd'hui c'était à Marcoussis également. Et puis il est là, il est arrivé, Marcelo Bielsa est de retour de vacances. Le coach de l'OM est à Marseille. Est-ce qu'il vous fait vibrer ce Tour de France 2015? Allez, venez nous le dire au 32-16 sur Twitter, hashtag RMC Live. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont fin prêts. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Virginie.
Bon, le Tour, c'est un petit peu comme la Samaritaine. Hein. Il se passe quelque chose tous les jours. On a vu ça hier, aujourd'hui à nouveau. Au 32-16,
c'est... Et demain?
Et demain encore. Demain encore, sans doute, avec les pavés et l'arrivée du Tour en France, cette fois-ci. Donc la Chris Froome est en jaune, mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur cette chute et sur ce qui s'est passé également après la chute, parce que ça a étonné beaucoup de gens de voir la course neutralisée. Il y a notamment Bruno qui nous appelle au 32-16, qui voudrait parler de cette chute et de la neutralisation de la course. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Virginie, bonsoir Luc et Bourgui.
Oui, bonsoir.
Je crois la dernière fois que Luc, on va le retrouver.
Luc, on l'a perdu.
Il n'y a pas de problème.
Il a chuté, donc on arrête.
On l'attend pas. Moi, je vais te dire, André, qu'on l'attend pas.
On neutralise
on
pas,
arrête,
on
arrête l'émission.
On neutralise
on attend que le tour rentre.
Surtout que c'est lui le maillot jaune, là.
Oui, en plus.
Pardon. Je vous fais un coucou et Bourguignon, je te fais un coucou parce que la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, c'était il y a 2 jours. Tu te rappelles, je disais qu'on était à Argelès avant d'enchaîner sur le Hautacam le lendemain.
Ah oui.
Ouais.
Et vous étiez en train de faire l'apéro.
Ouais, on faisait l'apéro. Alors, à tous les gens qui font pas du vélo, je leur demande de prendre un vélo, aller monter le Hautacam. C'est une vraie horreur, mais bon. Respect encore à vous, anciens coureurs professionnels et coureurs professionnels, qui, lorsque les courses ne sont pas neutralisées, vous faites un métier extraordinaire. Voilà.
Ouais, mais elle a été neutralisée. Qu'est-ce que tu penses de la neutralisation alors?
Non, mais moi je sais pas. Je me pose une question pour demain. Je vais dire à Nibali, Contador et consorts, ben n'attaquez surtout pas sur les pavés, parce que qu'est-ce qu'on va faire si Froome il chute ou il est retardé? Alors s'il chute, parce qu'il est retardé, non. Mais s'il chute, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout?
Non, mais là faut pas confondre une chute de quelques coureurs. Là, la chute était exceptionnelle. Il y a eu une grosse gamelle et comme la direction l'a dit, nous aussi on a dénoncé ça hein, au départ en direct. Lucho et Cyril et Christophe ont dénoncé en disant mais c'est n'importe quoi, pourquoi on arrête la course, la course était lancée, c'est un fait de course. Ok, mais le problème c'est qu'il n'y avait plus à l'échelon course de médecins. Et à partir de là, l'organisateur et les commissaires UCI ont pris la décision de neutraliser la course parce que ça devenait dangereux. Imagine qu'il y ait une autre gamelle.
C'est-à-dire que tous les secours étaient
problème...
bloqués au niveau de
oui,
la chute,
de
justement.
La
et donc, à
oui.
l'avant, il n'y avait plus personne.
Il n'y avait plus personne. Et puis, en plus, à chaque fois que la voiture voulait neutraliser les coureurs, ben, les gars passaient devant et accéléraient. Donc, c'est terrible. Hein.
Oui, c'était pas pour attendre. C'était pas pour attendre Fabien Cancellara, quoi.
Non. C'est pas le but. Moi, je condamne la neutralisation pour un vulgaire fait de course. On a vu. La polémique qu'il y avait, je crois qu'il y a 2-3 ans, quand Schleck avait attaqué Contador dans les Pyrénées, qu'il avait déraillé et que Contador l'avait contré. Et là, tout le monde a crié au scandale parce que Contador avait attaqué sur un déraillement. Mais il avait attaqué, la course était lancée, et voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas à polémiquer. Là, c'est vraiment un cas particulier.
Parce que ça arrivait très peu de fois, ça, dans l'histoire du Tour de France, hein, les neutralisations de ce genre.
Moi, je me rappelle absolument pas de grosses gamelles ou de gamelles comme ça avec neutralisation de la course. Franchement, je m'en rappelle pas ça.
Est-ce que Bruno est convaincu par cette explication?
Alors, parce que ça vient de Bourgui et comme je dis, il a porté de dossards, de nombreux dossards, j'ai envie de dire oui. Après, j'espère que ça sera pas la porte ouverte à n'importe quoi, mais j'aurais aimé que ça vienne à la rigueur des coureurs. À la rigueur, souvent, on critique les coureurs parce que quand, ils font pas la course, ils devraient, il faut qu'ils attaquent. Si à la rigueur, ça vient d'eux, ça m'aurait paru plus naturel, quoi.
Attention, les coureurs, après avoir entendu le fait qu'il y avait plus de médecins, qu'il y avait eu une grosse gamelle, qu'il y avait des blessés assez graves, les coureurs ont été unanimes là-dessus. Hein. Il n'y a pas eu il y a eu beaucoup de questions. Les mecs se posaient des questions parce que comme nous, parce qu'on ne connaissait pas, on savait pas ce qui se passait et on se demandait pourquoi on neutralisait la course parce que les gamelles, il y en a pas tous les jours, mais presque.
Ah oui, si,
en,
si,
début,
ouais.
En début de tour, la première semaine, c'est le quotidien des coureurs. Alors donc c'est vrai que si demain il y arrivait un accident à un leader, s'il y a neutralisation pour ça, là, ça devient grave. Oui, là.
Bruno, tu vas même avoir deux réponses pour le prix d'une, puisque ça y est, l'autre show est arrivé.
Bonsoir à voilà. Tous.
T'es allé manger, oui.
Mais non, mais il y a une grosse coupure sur la ligne d'arrivée.
Oui, on y croit.
Il a fait l'apéro,
non,
en fait.
Je pensais être en vacances un peu plus tôt. J'ai dit, mince, c'est pas la peine de remettre le jus.
Alors, Lucho, qu'est-ce que tu en as pensé de cette neutralisation de la course? Parce que Bruno trouvait que c'était pas tout à fait normal, mais bon, c'était pour des questions de sécurité parce que il y avait plus aucun médecin, plus personne devant. Hein.
Je vais peut-être redire la même chose que Thierry, puisque j'ai pas tout entendu, mais oui, c'est la neutralisation, je crois que c'était normal et bénéfique pour la suite de la course, sachant que toutes les ambulances étaient bloquées à l'arrière de la course pour soigner les coureurs, et qu'à partir du moment où tu n'as plus d'ambulance à l'avant de la course, admettons que la course se poursuive et qu'il y ait une chute assez grave devant, comment on fait pour soigner les coureurs? Là, c'est question sanitaire, c'est très important d'avoir arrêté pour des raisons sanitaires, hein, c'est très important d'arrêter la course, et je pense que Christophe, même je pense pas, j'en suis sûr, Christian Prudhomme a eu tout à fait raison de neutraliser la course. On ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas faire prendre des risques aux coureurs, sachant qu'à tout moment, il peut se passer des choses graves sur le tour, et s'il n'y a pas un médecin qui est là pour pouvoir aider les coureurs et les soigner au moment voulu, c'est pas bon, ça. Donc c'est
voilà,
normal,
Bruno.
C'est normal.
Voilà Bruno, merci beaucoup d'avoir appelé le 32-16 après cette étape spectaculaire. Il y a pas mal de questions qui se posent autour de cette chute assez spectaculaire. Mmh. Bonsoir Anthony.
Bonsoir tout le monde.
Salut. Bonsoir. Anthony.
Alors Anthony, tu te demandes si c'est pas à cause des vélos électriques qu'il y a eu cette chute.
Non mais il a raison. Lucho, il a raison parce que Cyril Guimard lance des
infos. J'ai réagi à l'article de Cyril Guimard, la
chronique. C'est une grosse connerie.
Non, mais il a dit ça, Cyril.
Mais oui, mais tu sais bien qu'il est avec son électricité.
Direct,
là.
Mais il est naze, là. Il va te coucher, Cyril, parce que là, ça va.
Il est pas là.
Mais non, mais il est pas là pour se défendre. Excuse-moi, mais
il est sur la petite table, le camion, là.
Et il y a des contrôles.
Il est à la bureau, là.
Il y a des contrôles sur les vélos pour détecter d'éventuels vélos électriques, des petits moteurs cachés. Bon, ça a eu existé, puisque a priori, si ça n'avait pas été existant, ça n'existait pas, disons, on n'aurait pas
il
mis
pas tout, eu de commission tout, et tout
toutes
ça,
ces
en fait.
Commissions et voilà. Tous ces contrôles. Mais à l'heure actuelle, je pense pas que les mecs prennent un risque. C'est pareil. Après, si on en chope, tant mieux. Mais
donc c'est Cyril qui a fait un peu d'hypertension en disant dans sa chronique qu'il avait peur d'un scandale.
Non, mais oui, il nous a jeté ça aux grandes gueules il y a deux semaines, le jour du championnat de France.
En tout cas, on verra ce qui se passe.
Cyril, il a besoin qu'on parle de lui.
Non, mais jour du championnat de France, ils sont
en tout cas,
ça. Non, mais
pas forcément responsable de la chute là aujourd'hui. Quoi.
Ah non, non, non.
Comment Thibaut Pinot disait qu'il roulait à plus de 80 dans le boulot.
Non, ouais, mais 80, quand il tombe sur la tête, il dit ça plus ce qu'il dit.
80 en descente, je veux bien, mais
c'était une légère descente. C'était un faux plat descendant.
C'était à 55, 60.
Légèrement descendant, ouais.
Oui, mais au début de la chute, c'était 60-70. Après, une heure après, c'était 70-80. Et là, demain, ça sera 90-100.
Il doublait les motos pour un peu.
Non, mais les motos, c'est eux qui freinent la course, en fait.
J'aimerais bien qu'on ne parle pas que de cette chute. Hein. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir appelé le 32-16. Oui.
Allô.
Oui.
Si c'est possible, j'aurais un petit service à vous demander.
C'est pas possible.
À mon fils qui est très jeune et aller au village départ du Tour samedi. Est-ce que vous auriez des passes pour ça, des fois?
Combien il en faut de passes?
C'est l'autre chose.
Trois. Oh putain, trois.
On va voir ça après
ouais.
L'antenne. Hein. On va voir ça.
Ouais, mais comment je fais pour le prévenir, moi?
Eh ben, nous, on va s'en occuper ici au standard. On va s'en occuper. Il n'y a pas de problème.
Okay.
On garde le contact et on te demandera ça, Lucho. J'aimerais bien quand même qu'on parle aussi de ce maillot jaune là qui est déjà sur les épaules de Chris Froome. C'est tôt quand même, non?
Et tant mieux pour les autres.
D'accord.
Non, mais tant mieux pour les autres.
Ça
fait
du bien.
Ça peut-être usé son équipe aussi. Parce que vu la conception de ce tour et la dimension spectaculaire qu'on a, si tous les jours ils sont obligés, il y a une course aussi folle, il va falloir que les gars de Froome soient extrêmement forts pour cadenasser tout ça.
Et vous vous attendiez à ce qu'il attaque tout de suite, parce que là il voulait la gagner, hein. Il n'a pas gagné cette étape, mais on sentait qu'il était à la lutte avec Rodriguez, il avait décidé de marquer des points.
Il a fait vraiment l'effort maximal pour pouvoir gagner cette étape, parce que Froome était pas loin derrière, c'est clair. Mais d'ailleurs il y a zéro seconde entre les deux, Thierry.
Ouais, parce qu'il n'y a pas d'écart suffisant
pour moi il y a une seconde minimum. Ouais. C'est bizarre. Moi, j'ai regardé, il y avait quand même un petit écart d'une
Pour
seconde.
Il s'arrête sur la ligne, pratiquement.
Est-ce que Alberto Contador a pris un petit coup au moral, là, aujourd'hui, parce que, non, il était à la lutte, et puis il a été quand même largement dominé par Chris Froome, dans le final. Est-ce que, même si les secondes, il y a 18 secondes, je crois, donc c'est pas énorme, mais est-ce que ça peut peser pour plus tard?
Il faut des enseignements pour plus tard. Contador, c'est vrai que il a fait des résultats sur la Flèche Wallonne, je crois qu'il a fait à un moment donné troisième, il me semble.
C'est
la troisième journée du Tour, c'est pas du tout les mêmes circonstances qu'une classique comme la Flèche Wallonne qui est une journée. Contador n'est pas mort aujourd'hui, hein, très
non,
honnêtement.
Non, mais pas mort, mais il a pris un petit coup au moral, c'est clair.
Ouais,
parce que il a vu. Mais bon, une ascension d'un mur n'est pas l'ascension d'un col non plus.
Non, hein.
Donc voilà,
ça.
On ne tire pas de conclusion trop hâtive.
C'est sûr qu'il a perdu encore un peu de temps et c'est pas forcément bon.
Il y a Vincent aussi qui nous appelle au 32-16 et qui voudrait parler de Alberto Contador. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir, la Dream Team. Bonsoir à tous.
Alors, quelle doit être la stratégie de Contador maintenant?
Contador, faut qu'il gagne du temps sur le plat. Mais contrairement aux autres années, j'ai l'impression que depuis deux jours, c'est lui qui impose le rythme sur le plat, c'est lui qui s'est trop pété. Demain, ça peut être une étape où son équipe va être très 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 solide. Après, il y a la peur des pavés, hein, ça, on va pas pouvoir l'enlever. Mais s'il a quelqu'un devant lui en qui il a confiance, je pense qu'il pourra prendre du temps à certains. Froome va pas être à l'aise. On a peut-être fait l'erreur de prendre le maillot aujourd'hui. Enfin, l'erreur, c'est jamais une erreur, mais son équipe va travailler beaucoup plus tôt demain, alors qu'il en aurait besoin plus sur la fin de course. Donc voilà, non, moi je suis. Voilà, c'est comme disait Thierry, c'est une montée très raide. Contador, on verra dans les cols, ça n'a rien à voir. Donc, plutôt satisfait, moi. Déçu, mais c'est pas perdu pour Contador.
Ouais, mais moi j'aime bien Contador aussi, mais franchement ça fait même hier il était devant, mais il respirait pas la sérénité et je le sentais un peu
toujours.
Mais il a peut-être
le contre-coup du Giro et la route du Sud,
là,
Thierry,
le Giro,
donc
ouais.
Il faut lui laisser le temps de pouvoir se retrouver un petit peu.
C'est aussi ce que dit Samir sur le hashtag RMC Live en disant que il commence à retrouver de la condition Alberto Contador et qu'il faut lui laisser un petit peu
puis
de temps.
Attends,
tout simplement.
Tu regardes le classement général, il est qu'à 36 secondes.
Oui, non, mais c'est ça, c'est pas une catastrophe. Moi, je parlais plus moralement que au niveau comptable. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir appelé le 32-16.
Au revoir.
Au revoir. Il y a aussi les Français. Les Français, alors Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, c'est fini pour lui là.
Oh, ah, c'est jamais fini un tour.
Mais vous me trouvez un peu trop définitif, décidément, pour tout le monde.
Non, mais c'est sûr qu'au bout de trois jours, être à presque trois minutes, je crois, c'est ça. Hein.
Mais oui, mais bon, le problème, c'est que
en général, c'est pas forcément bon. Mais
oui, Cyril disait tout à l'heure, le tour, il le gagnera pas, hein, ça c'est sûr.
Non, mais bon, comme on le disait.
On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
Comme je le disais,
mais bon, c'est très difficile d'envisager d'espérer, disons, que Pinot même monte sur le podium. Hein.
Comme je disais au départ du tour, Thierry, Pinot va se retrouver à 5 minutes minimum au pied des Pyrénées. Et à mon avis, il va arriver sur les Pyrénées avec au moins 5 minutes.
Ah quand bah tu là, vois, oui,
déjà
le
constamment
par
équipe, 38
km,
hein, 38 km, et puis ils n'ont pas l'équipe qui peut rivaliser avec les Sky, Tinkoff et compagnie. Hein.
Ils ont
mais en fait, quand on l'a vu réussir son contre-la-montre individuel, on s'est dit, ah bah, finalement, il est vraiment
oui,
en forme. Puisque c'est l'étude.
Oui, bah oui, parce que ça tombe. Un contre-la-montre individuel comme celui de samedi, 13 km 800, ça ne trompe pas. Les gars qui sont en condition, ils font un résultat. Et Thibaut, il a fait le résultat. Alors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé d'un seul coup. Au bout du deuxième jour, perdre du temps. Troisième jour, perdre du temps. Demain, il y a les pavés. On ne sait pas ce qui va se passer. Dimanche prochain, tu as le contre-la-montre par équipe de 38 km. C'est inquiétant, quoi. C'est inquiétant.
Alors, les Français, il y a Jean-Claude qui veut nous en parler au 32-16. Bonsoir, Jean-Claude.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Claude.
Bonsoir.
Bonsoir Thierry, et puis bonsoir Luc. Hein. Voilà, ma question est très simple. Aujourd'hui, les Français, on en parle. C'est vrai que l'année dernière, il y avait un Tour de France où quand même que tous les têtes d'affiche étaient absentes ou ils sont tombés. Ils ont bénéficié de ce concours de circonstances. Ok. Ceci dit, ça fait partie de la course. Hein, on le sait très bien. Maintenant, je pense quand même que nos Français, qui sont très bons, les Bardet, les Pinot, et pas mal d'autres d'ailleurs, Barguil donne comment une structure étrangère pro tour. Donc c'est pas pareil. Il apprend son métier correctement. Je voulais vous dire par là qu'en France, je crois qu'ils sont soyés, trop soyés, et qu'ils sont surentraînés. On a vu les stages de Bardet là, dernièrement. Ils sont surentraînés et médiatiquement parlant, on leur demande. Et ils n'ont pas l'expérience et ils n'ont pas non plus l'expérience pour pouvoir justement naviguer au milieu de ce bon monde. Regardez un exemple en France, Tony Galopin. Tony Galopin est en équipe étrangère depuis 5 ans maintenant. Il s'est aguerri avec des cancellaras, avec les Schlecks, avec tout ça. Il est rentré par la petite porte. Il a appris le métier sur 1 an, 2 ans, 3 ans.
Ouais, c'est un mec doué déjà au départ.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, Jean-Claude.
Il est doué, mais il a appris son métier dans une vraie pro tour.
Oui, je suis d'accord avec vous et je pense que sur le système de la préparation aussi physique et au niveau aussi du calendrier des courses, est-ce que c'est bien fait pour alors Pinot, je ne sais pas, je veux pas trop en parler, mais pour les Bardet et tout ça, je pense qu'il y a un problème de préparation physique, d'entraînement, et je crois qu'il y a aussi un problème de préparation au niveau des objectifs et des courses qu'ils font avant le tour. Moi, je me souviens à l'époque, c'est vrai que ça manque. Il y avait, nous, rappelle-toi Thierry, il y avait le Midi Libre, il y avait le Dauphiné. D'abord le Dauphiné, après le Midi Libre, c'était deux courses vraiment où on préparait le Tour de France et puis il y avait le Tour de Romandie avant où on faisait Gippingen. Il y avait vraiment un bon calendrier de courses.
Mais il y en a toujours autant, Lucho.
Comment ?
Il n'y a plus les mêmes courses peut-être, il y en a qui ont disparu, mais il y a quand même beaucoup de courses et ils peuvent courir de partout.
Ouais,
à l'étranger.
Non, mais c'est sûr, mais à mon avis, c'est peut-être un problème de. Il faut peut-être revoir la préparation des coureurs.
C'est pas forcément
savoir
simplement
les entraînements,
ça, parce
mais
que
oui,
les entraîneurs.
Savoir les entraînements, ce qu'ils font.
Tu sais, Lucho, j'ai l'impression d'entendre. Rappelle-toi les grandes années d'Armstrong où on disait que lui savait s'entraîner, lui savait faire des sacrifices, les autres non, et surtout pas les Français. Eh mince,
non, mais
mais j'entends quand même pas mal de choses. Il y a des entraîneurs qui sont excellents en France aussi. Il y a bon après ça dépend d'une année sur l'autre, on peut passer à travers. C'est vrai que
j'ai jamais critiqué Grapp, je trouve que c'est un super entraîneur, il a toujours performé dans avec son équipe. l'équipe, la Française des
Jeux.
Voilà,
et puis on tirera peut-être des conclusions à la fin du Tour de France. Voilà. On va pas tout de suite tout jeter.
Tony Galopin, c'est un excellent coureur qui s'est
tout comme Bardet, peut-être un peu moins que
Galopin.
Moi, je vais te dire une chose, Thierry. Quand je regarde Bardet, c'est un super coureur. Il a des qualités, ça c'est indéniable. Mais il manque de, comment dire, tu le regardes, il est tout maigre. Il est pas musculeux. Il a rien. Mais un coureur,
Froome,
il est comment? Il est musculeux.
Ouais, mais non, mais un coureur.
Et Froome, il a la peau et les os.
Ouais, mais moi, je sais pas, mais il y a
Ben oui, moi, je sais même pas où il trouve sa force.
Autre que le vélo, il y a un travail à faire, un petit peu de musculation, tu vois, pour prendre un petit peu de bras.
Mais ils le font, Lucho.
Mais quand tu es dans une bosse pour relancer, il faut que le vélo y réponde, et pour que le vélo puisse répondre,
il faut avoir
ce qu'il faut en haut et en bas. Je veux dire, dans un chrono, tu fais un résultat dans un chrono parce que tu as les abdos, parce que tu as des lombaires, parce que tu as ce qu'il faut en haut.
C'est encore plus scientifique aujourd'hui.
Mais les torses nus, tu verras que j'ai raison.
Ce que je vous propose, messieurs, c'est de voir ça demain, puisque le Tour de France va arriver en France. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir peut-être un Français se détacher. On verra.
Demain, il y a un Français qui gagne.
Il y a un Français qui gagne. Merci à Jean-Claude d'avoir appelé le 32-16. Merci à tous les deux, c'est déjà fini, forcément, puisque Lucho est arrivé en retard.
Lucho arrive toujours en retard. Lucho, j'en ai marre de ta préparation pourrie, là. Ta préparation, tu fais pas du muscle.
Il sera là demain à Cambrai pour l'arrivée de cette quatrième étape.
Les bêtises de Cambrai. Alors attendez, Virginie, vite fait.
Oui,
allez, demande à ce que les gens lui apportent à manger et à boire.
Mettez-vous sur le bord de la route dans les 30-40 derniers kilomètres avec des petites pancartes, parce que je vais faire un point dégustation gastronomique sur les produits régionaux. C'est important. Donc s'il y a des producteurs locaux. Des producteurs locaux qui sont
vous
là, qui
sur le parcours,
qui nous écoutent,
et vous nous
mettez dans les 40-50 derniers kilomètres, et je me ferai un plaisir de m'arrêter et puis de déguster des petits mets du terroir de votre région.
Tu seras aussi là pour l'intégrale Tour de France à partir de 15h.
Ça, c'est pas sûr.
Parce que je vais faire 15h30. Moi, je suis là sur l'arrivée vers 16h30. Quoi.
D'accord. Serein Cambrai, c'est l'étape de demain. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, demain. Il est presque 20h30, ça va être le moment de parler de foot. Hein. C'était jour de rentrée au PSG. Et puis il est là, Marcelo Bielsa est arrivé à Marseille. Vous nous appelez au 32-16, vous posez vos questions avec le hashtag RMC Live sur Twitter. On est aussi au Cercle des Nageurs de Marseille, le club de natation de Mélanie Yannick. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h33, l'intégrale Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. Avant de parler de foot, on va revenir sur l'affaire du week-end. L'affaire qui a attristé tout le monde du sport. Mélanie Hennig, victime d'une agression homophobe. Vincent Delzesco, tu vas nous rappeler ce qui s'est passé exactement.
La nageuse du Cercle des Nageurs de Marseille qui a été agressée le 26 juin dernier. Une agression à caractère homophobe. Donc Mélanie Hennig qui a expliqué avoir été interpellée par 4 individus alors qu'elle sortait d'un restaurant à Amiens avec 2 de ses amis. 4 mecs nous regardaient, ils nous ont demandé des cigarettes, mais je sentais que ce n'était pas pour ça, a-t-elle déclaré à l'AFP. Résultat, la nageuse de 23 ans s'est faite insulter avant d'être bloquée par un des agresseurs, puis rouée de coups. Elle et ses amis se sont rendus aux urgences. La biennoise a le nez cassé et souffre de plusieurs contusions. Au regard de la violence des insultes homophobes, elle n'a pas souhaité en relater la teneur. Elle a en revanche porté plainte vendredi pour agression homophobe. Une grande partie du monde de la natation française lui a apporté son soutien. Elle devait être examiné aujourd'hui par un médecin dans le cadre de l'enquête.
Merci Vincent Delzesco. Paul Letchia est en ligne avec nous, le président du Cercle des Nageurs de Marseille. Bonsoir Paul Letchia.
Bonsoir.
Donc le Cercle des Nageurs de Marseille, c'est le club de Mélanie Hennig. Est-ce que vous avez pu lui parler depuis cette agression?
Non, pas encore. Je ne lui ai pas parlé, mais évidemment, on a suivi tout ça de très près avec tout le club et tous ses amis. Donc elle devrait reprendre normalement l'entraînement demain ou après-demain. Actuellement, elle essaie un peu de se retrouver, quoi, parce que c'est quand même très dur, une chose pareille.
Est-ce que vous, en tant que président de son club, vous allez faire quelque chose, peut-être une communication spéciale, ou peut-être est-ce que du coup vous avez été touché par cette histoire et est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial? Oui.
Oui, non, nous avons été meurtris par cette histoire. Elle est tellement vile et c'est tellement incroyable que des individus s'en prennent à d'autres pour des raisons qui sont tout à fait minables. Donc, non, nous, si vous voulez, ce qu'on veut, c'est que Amélie se reprenne et redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire une jeune femme avec un bon caractère, avec une sportive, et on va tout mettre en œuvre, on va mettre toute l'affection que le club peut avoir pour lui apporter, pour qu'elle oublie ça très vite, et surtout que au mois d'août à Kazan, en Russie, où il y a les champions du monde, avec l'équipe de France, elle puisse se retrouver et oublier ses actes malfaisants.
C'est ça, en fait, le but maintenant pour elle, ça va être d'être prête et de participer à ces championnats du monde hein, qui débutent fin juillet. Vous dites qu'elle reprend l'entraînement demain, donc c'est quelque chose qui est jouable.
Mais oui, mais elle le reprendra certainement avec un masque parce qu'elle a le nez cassé, parce qu'elle a eu des contusions. Donc évidemment, on ne reprend pas l'entraînement dans des conditions optimales. Et sur le psychique, j'ai grand espoir parce que c'est une fille de caractère et de courage. Mais être agressée comme ça, sans qu'on ne demande rien dans la rue tranquillement, j'espère que ça ne laissera pas de traces.
Est-ce que vous envisagez quand même de communiquer en tant que club contre l'homophobie ?
Non, nous, si vous voulez, évidemment, qu'on n'est pas pour l'homophobie, évidemment que nous sommes contre l'homophobie et contre toute action aussi minable que celle-ci, mais on ne va pas communiquer, nous, ce qui nous intéresse, c'est le sport, et en plus de ça, vous savez, elle s'entraîne au cercle des nageurs, mais c'est pas une raison, hein. Je dis pas ça comme excuse, je dis ça parce que ce sont les faits, mais elle est toujours licenciée à son club d'Amiens, nous, on va faire tout ce qui est de notre devoir de club et surtout d'humain. On va essayer de la conforter au maximum, mais de là, on ne va pas partir en croisade sur des actes minables, parce que si aujourd'hui, les croisades, il faudrait passer 24 heures sur 24 heures pour être croisé pour toutes les causes qu'il y a à travers le monde, mais celle-là, vraiment, elle nous tient à cœur malgré tout.
Et puis il y a déjà beaucoup de nageurs marseillais, notamment Florent Manaudou, Frédéric Bousquet, qui se sont exprimés à ce sujet.
Oui,
et qui ont évidemment apporté leur soutien.
Ils sont tous avec elle, que tout le club. Hein. Mehdi Metella, Frédéric Bousquet, vous l'avez cité, Camille Lacour, Fabien Gillot. Vous le savez, dès que quelqu'un de la communauté est touché, tout le monde se réveille, et surtout dans ces conditions-là, quoi. C'est lamentable. Et j'espère qu'on trouvera vite les coupables, parce qu'ils ne méritent pas... Ils méritent en tout cas d'être pénalisés, surtout.
Merci beaucoup, Paul Letcha, d'avoir passé quelques minutes avec nous sur RMC, président du Cercle des Nageurs de Marseille. À très bientôt sur notre antenne. On va rester à Marseille, mais on va aller du côté de la commanderie à l'OM. Bonsoir Yann Pécheral.
Bonsoir, salut à tous.
Notre correspondant à Marseille, ça y est, mais ça y est, tu l'as vu Yann.
Il est là. Marcelo Bielsa.
Déjà quand il était arrivé la première fois, on avait attendu un petit moment, mais alors bon, l'été c'est pas son truc, hein. Il faut qu'il attende à chaque fois longtemps. Donc Marcelo Bielsa est bien arrivé. Raconte-nous comment ça s'est passé.
Bah écoute, il est arrivé en début d'après-midi vers 14h à l'aéroport de Marignane. Alors il y avait ses deux adjoints qui étaient avec lui, Diego Reyes et Pablo Quiroga, qui sont venus et qui l'ont accompagné jusqu'à la commanderie. Il est allé directement au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus. Il y avait eu deux séances aujourd'hui pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Une première séance ce matin à 11h, ouverte au public et à la presse, c'est suffisamment rare pour être signalé. Il y avait énormément de monde, 400 personnes à peu près qui étaient là pour voir les Olympiens, séance dirigée par Yann Van Winkel, le préparateur physique belge de l'OM. C'est vrai que le nom de Marcelo Bielsa était sur toutes les lèvres, hein. Les supporters ne parlaient que de ça. Sa venue était attendue, espérée pour l'après-midi. Et ce soir, là, à l'entraînement de 17h30, fidèle à ses habitudes, il est arrivé avec une demi-heure de retard sur la pelouse. Il aime bien.
On était plus à sa près, hein.
Ouais, non, mais les joueurs s'imprègnent eux-mêmes sur la pelouse. Il arrive, prend un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Il regarde ses joueurs de loin. Il n'aura pas dit un mot à ses joueurs, ni avant, ni après. pas de discours de la part de Marcelo Bielsa, même pas de bonjour. Alors certains seront peut-être étonnés, hein, notamment au niveau des nouveaux joueurs que sont Karim Rekik, Georges Kevin Nkoudou. Voilà,
ils sont dans le bain tout de suite comme ça.
Ils sont dans le bain tout de suite, voilà. Et ils ont compris qui était Marcelo Bielsa, le personnage. Ils ont vu un gars arriver à l'entraînement. Il les a regardés de loin, les mains dans le dos. Il a fait quelques tours pour le tour du propriétaire pour regarder ses joueurs de loin. Et puis à l'issue de l'entraînement, les joueurs n'ont pas vu non plus Marcelo Bielsa puisqu'il les laisse tranquilles dans leur vestiaire. Donc voilà, il a planté le décor, Bielsa. Et puis normalement, ce soir, il devrait avoir une réunion de travail avec le président de la Brune. Et j'imagine qu'on va parler de son contrat parce que pour le moment, officiellement, Marcelo Bielsa n'a toujours pas signé son nouveau contrat. Donc officiellement, Marcelo Bielsa, est-ce qu'il est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille? C'est la question qu'on se pose. On n'a pas de doute là-dessus.
Il faudrait
mais
une petite
voilà,
signature qui mette tout ça en règle. Il faudrait une petite signature.
Exactement. Et puis il faudrait une communication de la part de l'Olympique de Marseille qui ne saurait tarder. Mais en tout cas, il y aura une réunion également pour une réunion Mercato.
Juste un petit mot sur les supporters qui attendaient Marcelo Bielsa depuis longtemps. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec certains? C'est une forme largement de soulagement de le voir arriver enfin, l'entraîneur?
Ouais, mais ben, personne n'en doutait en fait. Hein, quand tu écoutes les supporters de l'OM ce matin, tout le monde pensait bien que Marcelo Bielsa allait revenir. Ils savaient qu'il serait pas là ce matin parce qu'ils avaient suivi dès hier soir le départ de Bielsa d'Argentine. Donc ils savaient qu'il serait pas là à temps et qu'il serait là peut-être dans l'après-midi. Mais il a une telle cote de popularité, Marcelo Bielsa. Puis c'est parfois ubuesque, hein, parce que c'est vrai que ce matin, à discuter avec les supporters de l'OM, on avait le sentiment, et certains l'ont dit, hein, clairement, c'est grâce à Marcelo Bielsa si le Chili a gagné la Copa América. Donc voilà, ça plante le décor aussi. On se dit, Marcelo Bielsa, il a une telle cote de popularité ici qu'on se dit que le prochain titre de l'OM, quoi qu'il arrive, hein, même s'il est dans 10 ans, il sera grâce à Marcelo Bielsa.
Alors donc Marcelo Bielsa qui va rencontrer Vincent Labrune dès demain. Hein, ça va être très rapide.
Ce soir même peut-être, après l'entraînement, Marcelo Bielsa qui devrait rencontrer Vincent Labrune, c'est en tout cas ce qui était prévu sur le planning initial, et parler des transferts, parler de joueurs qui sont arrivés, mais aussi de ceux qui doivent arriver. Le mercato de l'OM n'est pas terminé, la venue de Bounassar est imminente, et puis il y a d'autres dossiers qui traînent, N'Golo Kanté notamment, parce que les dirigeants marseillais ne sont toujours pas d'accord avec ceux du stade Malherbe. Quand le joueur lui est d'accord pour venir à l'OM, mais il y a une offre qui émane d'Angleterre qui fait que du coup les dirigeants canadiens demandent un petit peu plus d'argent aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, du coup ça bloque, donc il manque un milieu de terrain, il va manquer encore un latéral droit, il y a des dossiers qui sont sur le feu ici à Marseille, et voilà, Marcelo Bielsa j'imagine va faire le point aussi avec son président sur les départs et les arrivées, parce qu'il s'est pas mal de choses pendant son absence à Marcelo Bielsa, et notamment les départs de joueur cadre. Alors c'est vrai que aujourd'hui,
oui, il est au courant.
Oui, il est au courant, mais voilà, il va falloir quand même faire le point parce que l'OM a perdu Ayou, l'OM a perdu Gignac, l'OM a perdu Payet, l'OM a perdu Morel, et que voilà, ce sont des joueurs qui se remplacent difficilement, des joueurs qui ont eu une importance prépondérante dans la bonne partie de saison de l'Olympique de Marseille l'année dernière. Et voilà, il va leur falloir leur trouver des remplaçants parce qu'aujourd'hui l'effectif de l'Olympique de Marseille est un petit peu décimé en nombre également. Hein. Il y a un effectif assez restreint. Et il faut rappeler que l'OM, contrairement à l'année dernière, eh bien va jouer la Ligue Europa et que ça fatigue et que voilà, il va falloir des recrues, il va falloir du nombre pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et puis il y a deux dossiers qui sont compliqués aussi, dont Marcelo Bielsa va parler avec Vincent Labrune, c'est Nicolas Nkoulou, à qui il reste une année contrat, qui est courtisé. Le club pour le moment a dit qu'il ne partirait pas, mais le joueur souhaitait rencontrer Marcelo Bielsa et discuter avec Marcelo Bielsa. Il faudra voir ce que ça va donner, et puis peut-être aussi discuter avec Steve Mandanda. On parle d'un possible départ de Steve également. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de dossiers.
Ça fait beaucoup de dossiers. D'ailleurs, on va continuer à en parler dans un instant de l'OM. On parlera également de la rentrée du Paris Saint-Germain. Les deux clubs dont on va s'occuper d'ici 21h sur RMC. C'est dans l'intégral tour. Merci beaucoup Yann Pécheral en direct de Marseille jusqu'à 21h. C'est l'intégral tour. Ensuite, ce sera l'after foot avec Florent Gautreau qui est déjà prêt et qui parlera également de l'OM et de l'arrivée de Marcelo Bielsa.
RMC intégral tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h47, on est ensemble jusqu'à 21h. Mohamed Bouafsi m'a rejoint en studio. Salut Mohamed.
Salut Virginie.
Alors, on vient de parler avec Yann Pécheral de l'Olympique de Marseille, de l'arrivée de Marcelo Bielsa et du fait qu'il va maintenant se mettre tout de suite sur les dossiers de recrutement parce que beaucoup de joueurs sont partis, Yann l'a évoqué. Maintenant, il faut recruter. Marcelo Bielsa exige d'ailleurs des recrutements, donc il exige qui ? Il exige quoi ? À quel poste et quand ?
Alors déjà, on va dire que Marcelo Bielsa est revenu aujourd'hui, certes, mais il avait déjà préparé la reprise de l'Olympique de Marseille. Il était resté à Marseille, à la commanderie. Il avait travaillé jusqu'au 16 juin et il avait donné une liste de joueurs à son président Vincent Labrune. Une liste au départ de 30 noms, de certains joueurs évoluant en Ligue 1 et d'autres évoluant en Europe et même certains en Amérique du Sud. Et dans cette liste, eh bien, il a discuté avec son président. Ils sont descendus à une douzaine de noms. Dans cette douzaine de noms, il y a déjà deux joueurs qui ont rejoint l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Lucas Ocampos et de Karim Rekik. Il faut savoir que ces deux joueurs, Lucas Ocampos était déjà à l'Olympique de Marseille la saison dernière, donc ce n'est pas une surprise. Et Karim Rekik était courtisé par l'OM la saison dernière. Alors pourquoi Ocampos ? Tout d'abord parce que Claudio Beauvue hésitait beaucoup. Il a fini par lasser Vincent Labrune. Vincent Labrune l'a dit à Marcelo Bielsa et donc ils ont préféré le choix de Lucas Ocampos qui va être sans doute le remplaçant de Michy Batshuayi en pointe la saison prochaine. Karim Rekik, c'était une opportunité pour l'Olympique de Marseille. C'est un espoir néerlandais et aujourd'hui l'Olympique de Marseille a besoin de 4 joueurs, 2 défenseurs, un plutôt polyvalent qui pourrait jouer dans le rôle de Rod Fanny, c'est-à-dire en défense centrale, et un défenseur droit en remplaçant Brice Adjidié. Même si les négociations sont en cours avec Rod Fanny, Marcelo Bielsa veut prolonger Rod Fanny, mais il a des offres et notamment des offres du Moyen-Orient, et ensuite un latéral gauche remplaçant pour remplacer Benjamin Mendy, surtout avec la Ligue Europa. Ensuite il y a les 2 milieux récupérateurs. C'était la volonté profonde de Marcelo Bielsa. Il voulait retrouver ces 2 milieux. Le plan de l'Olympique de Marseille était simple. Avoir N'Golo Kanté et Idrissa Gueye aujourd'hui, ce n'est pas possible. Idrissa Gueye va s'engager avec Aston Villa et N'Golo Kanté, ça bloque toujours. N'Golo Kanté veut rejoindre l'Olympique de Marseille quand Marseille ne trouve pas d'accord. Et pour ce deuxième poste de milieu récupérateur, on a oublié complètement Idrissa Gueye, on se dirige vers un autre joueur, un joueur évoluant plutôt en Ligue 1, même si l'OM a une idée d'un joueur qui est en Amérique du Sud et on regarde un profil qui était à la Copa América. Donc Marcelo Bielsa a des idées aussi, il a des idées, il les a données à Vincent Labrune, mais on va dire que dans toute la liste qu'a donné Marcelo Bielsa à Vincent Labrune, on a préféré des joueurs évoluant en Ligue 1 tout simplement pour l'adaptation. C'est très important pour Marcelo Bielsa. Il l'a dit à son staff, la Ligue 1 est un championnat particulier où les Sud-Américains n'ont pas la même habitude de travail.
Il faut qu'ils soient opérationnels tout de suite.
Il faut être opérationnel tout de suite. Et les Sud-Américains, à la différence de l'Espagne, ils ont une culture de travail qui peut être assimilée en Espagne, alors qu'en France, on a une culture de travail différente. Donc il a dit, je préfère des milieux différents et je préfère des joueurs qui peuvent s'adapter à la Ligue 1 rapidement.
Alors, que pensent les supporters de l'Olympique de Marseille ? Guillaume est avec nous en ligne 32-16. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir toute l'équipe.
Alors ça y est, bonsoir, Marcelo Bielsa est de retour. Est-ce que vous avez entendu ce que vient de dire Mohamed ? Est-ce que ce sont des choses qui vous font plaisir, ça, Guillaume ?
Ça me fait plaisir. On va dire que je suis un petit peu dans l'expectative comme l'année dernière. L'année dernière, quand Marcelo Bielsa est arrivé, je connaissais pas Marcelo Bielsa. J'ai appris justement à apprécier le jeu qu'il mettait en place. Donc déjà, c'est très bien. Donc maintenant, on fait confiance à l'entraîneur. Il avait donné des consignes pour la préparation physique de base. Ensuite, il revient et là, il remet en place. Moi, j'ai confiance en ses choix de joueurs. Après, ce que je voulais poser comme question à Mohamed, c'est combien il reste de budget pour justement acheter ces joueurs. C'est toujours pareil. On peut acheter des joueurs libres, on peut acheter des joueurs à 3 millions, des joueurs à 6, des joueurs à 10. Et des 6, en général, c'est ce qui coûte quand même un petit peu d'argent. Et surtout aussi un arrière-droit ou un arrière-gauche. C'est des postes quand même qui coûtent un petit peu. Donc la question que je lui ai posée, c'était combien il nous restait le budget en fait.
Alors déjà à l'OM, on veut pas parler de budget parce que on a très peur depuis quelques jours après les ventes de Imbula. À chaque fois que l'OM arrivait sur un joueur, on disait tout de suite ah non mais c'est fois double. Donc aujourd'hui Marseille ne veut pas parler de budget. Il y a une certaine enveloppe. Il faut savoir derrière l'Olympique de Marseille qu'il y a un propriétaire, il y a un actionnaire, Margarita Louis-Dreyfus, qui est forte, qui va avoir des discussions aussi avec Marcelo Bielsa dans les prochains jours. Il faut savoir que l'OM, c'est pas pour rassurer les supporters. On essaye encore d'être ambitieux. On a vu, il y a eu l'arrivée d'Enkoudou, il y a eu l'arrivée de Bounassar. C'est des joueurs qui sont pas connus dans notre Ligue 1, on va dire. Donc ça rassure pas forcément les supporters de l'OM. Mais il faut savoir qu'il y a quelques jours,
ils sont pas pris au hasard.
Voilà, ils sont pas pris au hasard. C'est Marcelo Bielsa qui les choisit. On va pas donner une enveloppe au hasard. On va dire 10 millions ou 15 millions. L'OM a essayé de rééquilibrer ses comptes très très rapidement. On essaye d'être ambitieux. Et je peux même vous donner une petite information, c'est que ces dernières heures, l'OM a parlé avec un joueur sud-américain et un autre joueur assez connu, un international européen. Donc à Marseille, on essaie de garder de l'ambition. Alors Virginie, dès que j'ai le nom,
qui viendrait plus du sud, du nord de l'Europe.
Dès que j'ai le nom, je te le donne. Alors il viendrait plus d'Italie, cet international. C'est un national voilà qui est assez connu, qui pourrait arriver en prêt. Donc il y a des discussions. C'est pas facile parce que l'OM a besoin de négocier rapidement pour avoir les joueurs en préparation. Mais on essaie d'avoir le plus rapidement possible une équipe compétitive. Et si on regarde bien sur le, alors je sais pas si tu es d'accord avec moi Guillaume, mais sur le tableau on va dire, et sur le papier en tout cas, cet OM là, le 11 type, il est assez positif, il est assez potable, on va dire.
Oui, après c'est peut-être plus sur les
profondeur des problèmes.
L'année dernière, on a toujours été inquiet sur le banc. Là, ça va être la même chose avec l'Europa League. Mais les joueurs, ils sont habitués à la mettre ça maintenant, c'est-à-dire physique, répétition, etc. Donc, il y en a qui vont mieux encaisser la préparation. Mais si on regarde l'équipe type, on a Mandanda dans les buts, sauf s'il part, mais normalement, à mon avis, il serait déjà parti, parce qu'un poste de gardien, c'est important, et Bielsa veut ses joueurs dès le début de la préparation. Ensuite, à gauche, on a Mendy. On a dans l'axe Rekik et Nkoulou. À droite, on sait pas trop. JJJ, Fanny, on sait pas trop. Dans l'axe, avec Romao, on serait court, c'est sûr. Mais au milieu de terrain, ensuite, on a Barada, Tovin, Alessandrini. Devant, on a Batshuayi, Ocampos. C'est solide.
Offensivement, Guillaume, l'OM va s'arrêter. Offensivement, on va s'arrêter là. Offensivement, on va s'arrêter là. Maintenant, l'OM va se concentrer sur le secteur défensif avec l'envie de récupérer le plus rapidement possible les deux meilleurs récupérateurs, l'envie d'avoir N'Golo Kanté le plus rapidement possible. Et maintenant, il faut que Caen lâche un peu sur le dossier, lâche un peu de l'est.
Merci beaucoup, Guillaume.
Oui, mais Aranguiz, ça a l'air d'être une rumeur qui n'est pas fondée. Pour l'instant, même si il était dans une certaine liste de Bielsa et qu'il y a un intérêt de Bielsa pour Aranguiz.
Merci beaucoup Guillaume d'avoir appelé le 32-16. Mohamed, tu continues bien sûr à suivre ce qui se passe à l'Olympique de Marseille de très près. Mais comme tu peux faire plusieurs choses à la fois, c'est comme ça, tu suis aussi ce que fait le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, c'était la rentrée pour le Paris Saint-Germain. Tout le monde était à Marcoussis, puisque il y a des travaux au Camp des Loges, il y a des travaux aussi à Clairefontaine. Donc les joueurs du Paris Saint-Germain étaient à Marcoussis avec les rugbymen. Ça va, ils sont pas marchés sur les pieds,
entre
le 15 de France et les joueurs du PSG. Des joueurs du PSG, parce que c'était un peu clairsemé, on va dire, comme effectif ce matin.
Ouais, on a rigolé un peu en rentaine, parce que même moi qui suit toute la saison le Paris Saint-Germain, eh bien j'étais surpris, il y a certains visages que je connaissais pas. Une dizaine de joueurs, on va dire qu'il y avait une dizaine de joueurs connus dans ce groupe du Paris Saint-Germain, et beaucoup d'autres de U19, U17, je vais citer certains noms, Lorenzo Calegari, Georgen Alec, eux on va les découvrir parce que c'est les tout nouveaux contrats professionnels du PSG, il paraît que c'est deux pépites. Il y avait d'autres joueurs, Romain Brand, Prenel Kimpembe, ces joueurs qu'on ne connaît pas d'habitude, qu'on n'a pas vu cette saison en Ligue 1. Il y avait aussi certains cadres, Thiago Motta, Maxwell ou encore d'autres joueurs qui font partie de l'effectif professionnel, Serge Aurier, Lucas Digne. Une reprise en douceur de Laurent Blanc, avec quelques petites phrases. Le ballon est votre ami, on a pu entendre Laurent Blanc dire ça à ses joueurs.
Ça c'est la phrase du jour, le ballon est votre ami.
Le ballon est votre ami, ou encore retrouver un peu une certaine sensibilité avec le ballon. On n'a pas voulu presser les joueurs, on va dire que c'est deux petits jours de test à Marcoussis, c'est juste quelques petits moments de retrouvailles pour le groupe, toucher un peu le ballon avant de commencer les choses importantes. Les choses importantes, c'est le stage en Autriche, là encore il y aura beaucoup de jeunes, et surtout la tournée américaine. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que le stage du PSG va s'accélérer. Les joueurs du PSG vont partir la mi-juillet aux États-Unis, ils vont retrouver aussi les Sud-Américains qui vont les retrouver à ce moment-là, et les internationaux. Ça sera vraiment le moment fort de cette préparation.
Et le mercato va aussi se mettre en route au Paris Saint-Germain, mais ça on en parlera dans l'after. Mohamed Bouafsi, tu vas rester avec Florent Gautreau qui s'est installé.
Absolument.
Le ballon est ton ami.
Ouais, le ballon est mon ami. Ouais, ça dépend des jours, hein. Pas toujours.
Bah,
pas toujours.
Pour souvent, pas toujours. PSG, c'était pas ça.
Le ballon, je mets 2 mètres devant et je cours après. Ça va très bien comme ça. L'after effectivement prend le relais jusqu'à 23h. Vous connaissez notre after d'été, notre horaire d'été, 21h, 23h. Au programme ce soir, le retour du PSG à l'entraînement, le retour d'El Loco à Marseille, le retour du Mercato Show comme tous les soirs, Le retour du débat sur Monaco et Porto avec Nico Villas, le retour du quiz et le retour de la triplette Gautreau, Villas, Powels. C'est l'after jusqu'à 23h.
Une émission sur le retour, quoi.
C'est le retour. On est sur le retour, d'ailleurs, un petit peu, nous aussi. À tout de suite.